Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Quel dynamisme ! Je constate que les conditions climatiques vous mettent en forme. Mais attendez cet après-midi, vous allez voir autre chose. Et demain. Alors, je peux me permettre de vous poser une question. Ne répondez pas tous à la fois. Vous vous souvenez du message de la semaine dernière ? Pardon ? Ah ! Très bien, monsieur. Oui, pile ou face. Alors, si vous permettez, je n'ai pas été jusqu'au bout de ma préparation. On va continuer et on va finir donc ce message. Mais je vais lui donner un autre titre, parce que je pense qu'il convient d'aller plus loin, parce que nous n'avions vu qu'une partie. Donc on va faire la deuxième partie. Donc effectivement, c'est pile ou face. Et c'est un message qui était tout simplement préparé ou destiné, qui nous offre trois aspects du service, que je vais vous rappeler. Trois aspects de notre engagement dans le service de l'œuvre de Dieu. Nous avions évoqué d'abord la dispersion des chrétiens dans les églises. Alors là, il ne peut pas y avoir trop de service, puisque... Ça avait été illustré par un passage que j'avais cité dans le livre des Juges. Je rappelle simplement, parce qu'on va passer à autre chose. C'était cette histoire qui nous était rapportée dans le livre des Juges, au chapitre 5, où il est dit ceci: « Au temps de Shamgar, au temps de Jaël, ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés parce que les routes... était abandonné. Conséquence, c'est qu'il n'y avait plus de force parmi les chefs en Israël. Et naturellement, dans cet état de décadence, de dissolution de la nation d'Israël, il n'y avait plus grand-chose qui comptait pour le service de Dieu. Dieu n'était plus prioritaire, on pourrait dire. Et à travers cette dispersion, naturellement, ça amène la décadence dans tous les domaines d'une nation, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan spirituel. C'est là-dessus que nous avions marqué le fait. Et dans bien des domaines, l'entente, la communion fraternelle, c'était quand même une période assez difficile. Et nous avions simplement entrouvert une petite fenêtre où nous avions évoqué, par-delà cette pensée, dans cette condition morale, on peut dire, du peuple, ceux qui étaient naturellement dans cet état, et où il va apparaître dans cet état des Israélites pieux qui se cachent. Alors, qui montrent, et là nous allons naturellement aller plus loin, et pour nous dire... que le service de Dieu, servir, il y a naturellement ses honneurs, et ses déshonneurs. Et nous le verrons dans la troisième partie, c'est-à-dire, on va le voir aujourd'hui, simplement. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Donc, la dispersion, c'était le premier point. Aujourd'hui, on va réouvrir un deuxième aspect, c'est ceux qui se cachent pour servir. En raison peut-être des conditions, et certainement des conditions de la dispersion de la généralité des Israélites dans cette époque des juges. Et puis, troisième point sur lequel nous conclurons, ce sont ceux qui se montrent pour servir, mais pas pour la gloire de Dieu, pour être vus, en raison de leur fonction, en raison de leur mission. Et ça, c'est véritablement ce que Jésus a condamné d'une manière... très ferme quand il s'est trouvé confronté avec les pharisiens, parce qu'il leur a fait des compliments en leur disant: vous êtes des hypocrites, c'est pas Dieu que vous servez, c'est vous, vous servez vous-même et vous vous servez naturellement et bien pour votre... Et tout cela, si l'on rassemble un petit peu ces trois aspects, on pourrait se souvenir de la parabole que Jésus nous laisse. Cette parabole que nous trouvons dans Matthieu, dans Marc, et je crois dans l'évangile de Luc, où il est question tout simplement du semeur, les chemins. Où là, rien ne pousse naturellement, puisque les oiseaux du ciel viennent et ravissent. Il n'y a plus de force, plus rien du tout. Et puis il y avait également cette proposition où la semence tombe, et bien là, elle tombe dans les endroits pierreux, la rocaille, et là, il ne va pas y avoir de production. Puis, la troisième proposition, c'est celle qui nous est donnée à travers les épines et les ronces. Mais nous allons maintenant nous intéresser à la quatrième proposition de cette parabole, c'est-à-dire que là où la semence tombe dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est celle qui s'illustre à travers, ceux qui se cachent pour servir. Ils n'ont pas forcément envie d'être vus, mais ils servent le Seigneur dans l'ombre. C'est pour cela qu'on peut déjà rassembler un petit peu les choses. Ce sont des idées que je mets devant vous, mais ceux qui sont dans l'ombre et qui sont fidèles, et ils n'ont pas d'autre intention que de servir Dieu et pour sa gloire. Et puis il y a ceux qui sont sur les projecteurs. Ça, c'est ceux qui font les choses pour Dieu, pour être reconnus et vus. Je vous avais apporté une pièce de monnaie qui représentait une fortune la semaine dernière. On ne peut pas regarder une pièce de monnaie les deux côtés à la fois. Je ne sais pas comment on peut faire. Peut-être avec un miroir, peut-être, c'est possible. Mais une pièce de monnaie, vous regardez un côté, vous regardez l'autre. Et c'est ces deux côtés que nous allons entreprendre maintenant. De par sa forme sphérique, elle présente deux aspects opposés. Et qui ne se comprennent pas du premier abord. Voilà. Alors, il y a naturellement l'indication numéraire. Et puis, il y a de l'autre côté, on avait parlé de Marianne la Faucheuse, naturellement. Côté pile, côté face. Alors, partant de cette réalité, c'est important parce qu'on ne va pas faire un cours d'économie aujourd'hui, mais partant de cette réalité, nous comprenons et nous comparons avec une autre réalité, celle que Jésus nous enseigne, celle de la vie spirituelle. Ça, c'est important. Voilà. D'un côté ou d'un autre, pile ou face, ombre et projecteur, servir est un honneur dans certaines conditions, dans les conditions qui sont souvent rappelées dans la Bible et dans les enseignements de Jésus et des apôtres, ou alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas spirituel, c'est charnel. Je dirais peut-être, si nous voulons aller un peu plus loin, c'est religieux. C'est ça, le côté religieux, c'est l'âme, c'est pas l'esprit. Et je crois que si Dieu nous a appelés dans notre condition de chrétien né de nouveau, c'est pour véritablement vivre notre foi dans la dimension spirituelle et pas dans la dimension religieuse. C'est-à-dire, il apparaît une sorte de parallèle que Jésus utilise afin de démontrer à l'évidence soit la vraie modestie qui est agréable à Dieu, chez les enfants de Dieu, chez ceux qui le servent, je dis bien la vraie modestie, ou son contraire, la vanité et son allié qui est l'orgueil. Souvent constaté, quelquefois malheureusement au sein des églises, et peut-être même, ne soyez pas choqués, mais quelquefois même dans l'église évangélique, on en a connu, des gens qui avaient finalement beaucoup de capacité même pour prêcher, beaucoup de capacité pour prier, beaucoup de capacité pour aller et venir dans l'église faire ceci et cela, mais à un moment donné, il en ressort que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Moi, j'en ai connu un, à chaque fois qu'il montait sur l'estrade et qu'il arrivait dans l'église, il disait « Gloire à Dieu !» Quand on le voyait vivre, je me dis « c'était pas pour la gloire de Dieu. Excusez-moi. » Alors, je passe. Donc, cet orgueil qu'il a est marqué, parce que vous savez, quand on se convertit au Seigneur, la première chose qu'il entreprend, le Saint-Esprit entreprend, c'est de nous amener à naître de nouveau, pour être de nouvelles créatures. Et il y a une chose qui est visée en premier, c'est notre orgueil. Notre orgueil chrétien. Même si nous avons eu une conversion extraordinaire, même si Dieu nous a fait grâce d'une manière formidable. Oui, oui. C'est pour ça que nous allons aborder tout à l'heure, d'ici quelques instants, la nécessité de l'humilité, de la modestie, de la discrétion. Vous savez, on ne doit pas faire parler de nous, on doit faire parler de Jésus.
Amen.
Ça, c'est important.
Amen. Hein?
Et nous, on doit disparaître quelque part. D'ailleurs, il y a Jean-Baptiste qui dira, et je cite tout à nouveau, qu'il faut qu'ils grandissent, qu'ils croissent et que moi je diminue. Ça, cette parole, elle devrait être c'est une parole à mettre en lettres de feu dans la Bible, naturellement, dans nos connaissances de la Bible. Alors, il y a naturellement ceux qui servent dans l'œuvre de Dieu, dans l'ombre et la discrétion, je viens de le présenter en introduction, et puis il y a ceux qui veulent être sur les feux de la rampe, hein, tout simplement pour être vus et applaudis. Ça peut être très subtil, notre affaire, parce que derrière des apparences, eh bien, il peut y avoir véritablement des enfants de Dieu avec un ministère, avec un service, qui quelque part se glorifient de leur succès, des dons que Dieu leur a donnés, parce qu'ils ont reçu des dons. Moi, je pense que ceux qui ont été vraiment dotés de dons, c'est les évangélistes. Parce que leur ministère est marqué par les dons de l'esprit, des capacités surnaturelles. Et quelquefois, eh bien, il y en a qui sont restés très humbles, et fort heureusement. Mais il y en a d'autres qui, à un moment donné, ont abandonné la route, comme on le dit. Hein. Et de populaires qu'ils étaient, eh bien, finalement, ils ont pris des chemins détournés en raison de l'orgueil. Parce qu'il n'y a rien de plus stimulant lorsqu'on vient vous dire « mais c'est formidable, c'est extraordinaire, Dieu vous a donné des dons, hein, voilà, j'ai jamais vu une chose pareille ». Ben oui, mais regardez Jésus, avec les dons, ben, il est toujours resté, il fuyait. Il s'en allait pour ne pas recevoir les honneurs du peuple. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Alors, ceci dit, nous allons parler des serviteurs qui veulent rester inconnus, qui veulent rester dans la discrétion, tout simplement. Alors, dans l'Église, s'acquiert, parce que c'est Dieu qui l'a donné ainsi, il y a des invisibles. Et moi, je voudrais encourager les frères et les sœurs qui sont là depuis des années, qui ont une responsabilité dans l'Église, mais qui ne font jamais de bruit, qui ne font jamais parler d'eux. Mais ils sont là, et heureusement qu'ils sont là, nous l'avons dit pendant des années, où nous avons partagé avec vous, où là, véritablement, eh bien, l'Église ne serait pas là s'ils n'étaient pas là. Elle n'en serait pas là dans tout ce qui est intendance, maintenance, matériel, sur le plan spirituel, sur le plan de l'accompagnement lorsqu'il y a des visites à faire et la prière, hein, et puis les réunions d'évangélisation et toutes sortes de choses. Et ça, moi, je voudrais justement vous mettre à l'honneur, si vous permettez, si je peux. Hein, moi, je n'ai pas grand-chose, je n'ai aucune capacité pour cela. Mais au moins, vous réconforter. On ne va pas le faire seulement le jour de l'Assemblée générale où vous avez les remerciements généraux du pasteur, mais là, le dire, même à travers un message pour dire que si Dieu vous a choisi, il vous a donné des capacités, peut-être pas des capacités de faire des prédications ou de faire des études bibliques ou toutes sortes de choses, mais là, dans ce que vous êtes. Et auprès des frères et des sœurs, mais auprès de l'extérieur, parce qu'il en va du témoignage que vous rendez autour de vous. Ça, c'est important. Que vous puissiez avoir une bonne réputation à l'extérieur, par votre fidélité, par votre courtoisie, par votre politesse, par votre modestie. Et ça, ça se reconnaît. Hein. Dans le livre des Actes, il nous est dit qu'ils reconnurent les disciples parce qu'ils ont été avec Jésus. Il doit y avoir une empreinte à un moment donné de la vie de Jésus en nous. Hein. C'est normal, hein, parce qu'on parle beaucoup des dons spirituels, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est à la fois les dons spirituels. Mais les dons spirituels n'ont de valeur que s'ils sont accompagnés des fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la bonté, enfin bon, vous connaissez, il y en a neuf comme ça. Alors, il y a des invisibles dans l'Église. Je vous vois quand même, hein, quand je dis invisibles, naturellement. Ce sont des travailleurs de l'ombre qui s'acquièrent fidèlement des tâches, souvent les plus obscures et ingrates. Aussi, à ces frères-là, à ces sœurs-là, à ceux-là, hors projecteur et hors regard d'autrui, et on en avait parlé la semaine dernière, Dieu réserve des promesses et de la reconnaissance au temps voulu. Il y a un passage que j'avais cité pour le rappeler, parce qu'il est quand même formidable à mon sens, parce qu'il nous encourage lorsque nous passons des moments difficiles. Dans Hébreux chapitre 6 et verset 10, il est dit cette parole « Car Dieu n'est pas injuste, non, non, Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom dans son Église, au sein de son corps, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons, et ça c'est une exhortation, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Soyez fermes, irréprochables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, parce qu'il nous est promis une récompense. » Vous savez, au tribunal de Christ, je dis bien au tribunal de Christ, les enfants de Dieu que nous sommes, nous recevrons des couronnes. Alors vous allez avoir votre chapeau, votre casquette et votre béret, et vous allez recevoir une couronne de gloire, une couronne d'honneur, une couronne de vérité. Il y en a 6, je crois. Et à ce moment-là, eh bien, ça sera non pas en raison de ce que vous êtes sauvés parce que vous avez fait des bonnes œuvres, mais vous recevrez cela en raison de ce que vous avez été fidèles. Vous savez, c'est encore la parabole de Jésus qui nous dit qu'il a donné à l'un 10 talents, à l'autre 5 et à l'autre 1. Et c'est en raison de la manière dont nous avons géré toutes ces choses que véritablement, eh bien, Dieu va nous honorer. Parce que Dieu n'est pas oublié. Et on aura peut-être la surprise de voir des frères et sœurs qui ont été, excusez-moi l'expression, des petites souris dans la communauté et qui, de l'autre côté, eh bien, véritablement recevront toute la gloire du Seigneur en fonction de ce qu'ils ont été. Et puis d'autres qui auront été peut-être sur la plateforme, qui auront été mis là, au perchoir, on peut dire, et qui quelque part, tout juste, hein, parce qu'ils ne l'ont pas fait pour le Seigneur, pour la gloire et pour le bien de l'Église, mais ils l'auront fait pour eux-mêmes, leur ego, nourrir leur ego. C'est pas trop dur que ce que je suis en train de dire. Bon. Il y a donc un côté pile, je reviens, hein, souvent méconnu, et oublié. Mais je voudrais rappeler quelques principes de ces chrétiens qui sont là dans l'ombre et qui, quelque part, sont souvent méconnus, mais connus quand même, hein, pour ce qu'ils sont de qualité de leur vie spirituelle. D'abord, c'est une piété cachée. Quand on dit « c'est moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau » et voilà, hein, attention. Piété cachée. C'est l'humilité et la discrétion dont nous avons souligné tout à l'heure. C'est le don de soi-même. Eh oui, il y a des efforts, quelquefois il y a des nécessités. Il y a des périodes dans l'Église où il y a un effort à faire. On l'a vu quand il s'est agi de construire la nouvelle Église de Redon. Sur le plan financier, ça a été quelque chose de formidable. En 1 an et demi, tout était payé, comme on a fait dans 2 petites églises. Comment on a fait? Eh bien, on a vécu le miracle et le surnaturel de Dieu. Moi, je reste avec cette pensée, hein, c'est extraordinaire, parce que vous êtes tous mobilisés. C'est un coup de maître, hein, parce que quand on a ouvert Redon, je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler, parce que peut-être que c'est plus rappelé maintenant, et Redon a une valeur extraordinaire pour les chrétiens des 2 églises. Pas l'oublier, c'est que quand le 14, oui, c'est autour du 7 juillet 2014, quand on a fait la première réunion, eh bien, au mois de septembre, début septembre, je payais les dernières factures, tout était réglé. Il y a bien des pasteurs qui aimeraient que ça se passe comme ça pour eux. Hein. Extraordinaire, mes frères. Et ça s'est fait dans l'ombre. Et je n'ai pas eu besoin tous les dimanches de dire « pensez à donner, donner, donner ». Moi, je ne demande pas. Je demande au Seigneur qu'il mette des dispositions dans les cœurs. Et ça, c'est plus important, parce que ça finit par fatiguer les gens, hein. Moi, je connais actuellement une église qui est en train de ramer. Je la connais bien. où là, c'est tous les dimanches, il faut vous donner non seulement eh bien, vos offrandes, mais il faut que vous donniez en plus, etc. Eh bien, je peux vous dire que les gens partent. Quelle maladresse! C'est vraiment pas comprendre que le Seigneur, il est le premier dans cette affaire. Tout lui appartient. Hein, il le dit, hein, je crois dans Jérémie, « Tout est à moi ». Alors, allons chercher auprès de la banque du Seigneur. Hein. Et il va le donner. Hein. Et quelquefois, on ne s'attendait pas à certaines choses qui sont arrivées et on n'a jamais eu, à un moment donné, un coup d'arrêt en disant « On ne peut pas aller plus loin ». C'était une source. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Donc, il y a le côté pile. On est en train de faire un petit peu l'énumération des qualités de ces inconnus, de ceux qui marchent dans l'ombre, mais tellement précieux à la vie de l'Église. Et pour ces chrétiens-là, eh bien, l'important n'est pas la popularité. Vous savez, ce que sa main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Ou de vouloir atteindre quelques renommées en disant, ben voilà, vous savez, dans le monde, les gens qui ont été les bienfaiteurs, soi-disant, de l'humanité, ou même de leur quartier, ou même de leur église, on leur met une plaque. On leur met le nom d'une rue. Voilà. Mais on n'a pas besoin de ça, nous. Hein. Parce que, pour nous, c'est pas sur la terre, c'est au ciel. Vous savez, quand on sera au ciel, excusez-moi, jeu de mots, mais on sera pas à côté de la plaque. Eh oui. Parce que tout ça, toutes ces manifestations de visibilité, de vouloir être vu, d'ego tout simplement, eh bien, c'est souvent artificiel et superficiel. Et c'est ce que Jésus avait en horreur par rapport aux pharisiens. Oui, certainement. Et ce n'est pas les applaudissements de nos semblables, parce que Jésus nous le dit dans le sermon sur la montagne, et je le rappelle à dessein, quand il dit ceci, « Ils font cela pour être vus ». Des hommes. Alors, perdons cette habitude de dire, eh ben moi je fais le bien, et bon, voilà, vous voyez, je suis un homme de bien. Ouais, c'est pas forcément eh bien, ce qu'il convient de faire. Et justement, je voudrais simplement relire avec vous cet état de choses qui se passait en Israël au moment où il y avait de la dispersion. C'était véritablement quelque chose de profondément regrettable que le peuple élu on arrive à se disperser de tous les côtés, qu'ils avaient abandonné les routes et qu'ils avaient suivi des chemins eh bien, détournés. Et là, dans 1 Roi, et nous revenons à la fin de notre message de la semaine dernière, 1 Roi, chapitre 19, et nous allons lire le texte pour nous le rappeler tout simplement. 1 Roi, chapitre 19, et il est dit ceci. Verset 9, on va commencer. Oui, chapitre 19, verset 9. Alors, il s'agit d'Élie, hein, qu'Élie, quand même, à son actif, avait quand même quelques miracles pour être admiré. Hein. C'est pas mal. Hein. Ben oui, mais bon, à un moment donné, il faut passer par la crise qui nous vide de nous-mêmes. Et vous connaissez le contexte, je ne vais pas vous le rappeler. Hein. Et au verset 9, il est dit ceci. Élie entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? Pourquoi écoutez-vous les bêlements des troupeaux ? » C'était le texte de la semaine dernière, ça aussi. Hein. Alors, Élie répondit, mais là, il n'est pas bien, il est en pleine déprime. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, et les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Là, il était véritablement dans une dépression sévère. Et pourtant, il venait de vivre la veille ou l'avant-veille un miracle extraordinaire quand il a vaincu les 430 prêtres de Baal. Vous connaissez l'histoire. Là, il pouvait être fier de lui. Hein. Et le peuple d'Israël pouvait dire « Laissez hein. ». Et il pouvait dire, eh bien, regardez, moi, l'homme de Dieu, moi, Élie, regardez ce que je suis capable de faire. Mais alors, ça n'a pas duré longtemps. Et c'est curieux, parce qu'il aurait pu avoir peur du roi, mais il a eu peur de Jézabel, une femme. Un homme comme Élie, Ah, quelquefois, il faut se méfier des dames. Hein. Maintenant, vérifiez si elles s'appellent Jézabel, parce qu'il y en a des très gentilles. J'ai intérêt de me mettre... Puis j'en profite que je le dis parce que mon épouse n'est pas là ce matin. Mais... Enfin bon, on connaît un peu le personnage que je suis. Mais toujours est-il que nous avons ceci. Et un peu plus loin, au verset 18, et c'est ce verset sur lequel nous allons dire quelques mots, verset 18. Et c'est Dieu qui parle à Élie. Il lui dit, mon brave Élie, t'as vraiment pas le moral aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Mais sache que je laisserai, je conserverai. C'est les traductions de différentes... théologien que j'ai consulté, hein, je ferai vivre, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point baisé ses statues. C'était une traduction particulière. Il s'agit de ces 7000 hommes que j'appellerai la communauté tout simplement d'exception. Et dans une église, c'est pas que je veux faire des séparations et tout ça. Mais dans une église, il y a des frères et des sœurs, et le plus possible, qui sont la communauté d'exception sur l'église locale. Moi, j'en ai connu dans les autres églises dans lesquelles je suis passé. Vraiment, ils ont été même mes pères spirituels quand j'étais tout jeune, quand j'étais jeune pasteur en formation, et que j'ai connu des hommes d'exception, des femmes d'exception, et qui portaient les fruits. Et qui, en plus, ajoutait à ses fruits reconnaissables, eh bien, avait aussi, quelque part, un service pour parler aux autres. Et il réussissait. Et non pas seulement en disant, mais en les voyant vivre. Eh oui, ça c'est quelque chose. C'est ce que la Bible appelle le petit reste. Alors, quelquefois, on s'attriste, on est navré en disant, mais c'est vrai. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu toutes sortes de choses, il y a tous les événements d'aujourd'hui, on en a parlé la semaine dernière suffisamment, mais c'est pour dire, mais l'Église se vide, mais oui, l'Église se vide, mais ça c'est pas parce que c'est l'Église de Saint-Nazaire ou de Redon ou je ne sais pas les églises qui nous environnent, parce que j'entends ça partout, hein, de toute façon, auprès de mes collègues. Mais moi je dis que quelque part, c'est un fait général de notre société d'aujourd'hui. Puisque les grandes villes se vident, puisque dans les entreprises, ils s'en vont tous pour aller garder les chefs dans la campagne. Mais oui, excusez-moi le rapport, mais c'est vrai. Et les gens sont en fuite en ce moment, parce qu'ils ne supportent plus de vivre cette société. Et je crois que les églises sont aussi livrées au même phénomène que nous constatons, le petit reste. Et qu'est-ce que Dieu nous dit à travers le prophète Ésaïe ? Eh bien, d'un petit reste, j'en ferai une foule. Ça, c'est quelque chose. Hein. Alors, c'est pour toi, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Mais continuez à persévérer. Continuez à prier le Seigneur. Et s'il y a des frères, des sœurs qui sont partis, ils sont partis pour des raisons, moi, je ne veux pas les juger. Il y a peut-être aussi des choses qui ne se passaient pas très bien. Ils n'ont pas forcément été bien reçus ou bien traités. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais une chose qui est certaine, c'est que peut-être reviendront-ils. Hein, parce qu'on nous a demandé de prier pour ceux qui... Voilà. Peut-être ont-ils trouvé une autre position dans une autre église évangélique où on prêche Jésus. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont abandonné le Seigneur. Entendez bien. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont abandonné le Seigneur. Mais c'est mieux quand on est dans une église. C'est mieux quand on est rassemblés ensemble. C'est mieux quand on sert la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais ça a été comme ça en Israël. Vous vous rendez compte ? À travers mille et quelques années là, de cette royauté d'Israël, hein, à travers les rois différents et tout ça, ça faisait accordéon. Hein. Ça faisait pas. Il y a eu des périodes, et particulièrement le temps des juges, ben je peux vous dire que c'était quand même pas toujours facile, hein, parce qu'il y avait des conflits entre les tribus. Hein, ça, c'était quand même le peuple de Dieu, entre Juda et puis les autres, Israël et Juda. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a mis là pour que nous y restions. Non pas par vanité, mais parce que nous avons un rôle à jouer. Et quand je suis arrivé il y a 18 ans ici, moi j'ai entendu une sœur que vous connaissez, elle est toujours vivante, elle n'est pas là ce matin, pour des raisons de grand âge, mais elle me dit, Monsieur Ouvrard, vécu des moments difficiles. Et pourtant, on allait avec un cœur serré dans l'église. On était malheureux, mais on y allait quand même, parce qu'il fallait qu'on soit là. Et puis, ce n'est pas eux qui sont partis. C'est les situations qui étaient là qui ont disparu, et les personnages aussi. Et après, bah, elles se sont trouvées bien. Il ne faut pas lâcher la prise. Ce sont finalement des fidèles de l'ombre. Mais on ne lâche pas prise, quoi qu'il en soit. Le petit reste, et d'un petit reste, Dieu est capable de faire véritablement un peuple tout à nouveau. Dans les guerres, c'est ce qui se passe. Il y a des milliers, voire des millions de gens qui disparaissent. Et puis après, il y a un souffle nouveau. Mais ça, c'est le monde. Le Dieu de ce monde, on connaît. C'est le prince de la mort. Mais nous, nous avons le Dieu de la vie. Et il est capable de multiplier. Vous savez, on a fait des années d'évangélisation. On est resté planté, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. On est resté planté pendant des années, dans une petite œuvre. Où il y avait vraiment, vraiment, vraiment très, très peu de monde. Moi, ma cliente habituelle, c'était ma femme. Je l'ai évangélisée, je peux vous dire, pendant des années. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est bien convertie. Mais on est resté comme ça et on disait, voilà, jeudi après, le samedi après-midi à Cholet, on se disait, mais on a fait 120, on va faire 120 km et il n'y a toujours personne. Pourtant, on s'est démené. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça qu'on a eu le plaisir d'y retourner il y a 15 jours, 17 ans après. J'ai été invité donc par mon successeur. Et on était content de voir une salle toute neuve. Eh bien, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher prise. Parce que le but du diable, c'est de nous laminer pour que nous nous décourageons. Je prends la troisième proposition et on va terminer. Oh, bon, on a le temps aujourd'hui. C'est bon. Alors, Philippiens. Philippiens. Non, non, c'est bien de pouvoir s'exhorter les uns les autres. Mais pas de, quand on s'exhorte, pas donner une pression culpabilisante sur la personne à qui on s'adresse. Ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas perdre ton salut. Le Seigneur va te, il va pas te bénir. Ouais, attendez. Ben justement, il va peut-être les bénir doublement parce qu'il veut les récupérer. En leur faisant du bien. J'avais oublié. Alors, Philippiens, chapitre 3 et verset 2. Ça sera un très court. Je ne vais pas tout lire. Je ne me lasse point de vous écrire, chapitre, verset 1er. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alors, je passe la première expression. Mais il est dit... Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les mauvais ouvriers, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure en ce qui concerne ceux qui se montrent pour être vus. C'est ceux qui correspondent à la parabole du semeur, où rien ne pousse en apparence. Et même quand ça commence à pousser, même s'il y a un sol favorable, eh bien à un moment donné, à cause des épines, à cause des ronces qu'ils ont laissées pousser dans leur cœur, eh bien ça n'a rien donné. Alors, pile ou face? On a parlé de pile pour les fidèles. Maintenant, on va voir en face qui sont ces mauvais ouvriers. Tout est dans la motivation intérieure des gens, des enfants de Dieu. Quelle idée je me fais de l'œuvre de Dieu? Quelle idée je me fais de Dieu? Quelle idée je me fais de son service? C'est quelque chose, c'est un examen, une étude, on pourrait dire. Il y a un test de vérité qui prétend paraître dans la lumière, qui apparaît comme la lumière, qui apparaît sous les projecteurs, et voici quelques critères de reconnaissance. Premièrement, vous voulez véritablement être des serviteurs, même dans l'ombre, mais des serviteurs d'authenticité, de vérité. Mais écoutez ça, c'est notre façon de réagir devant des situations diverses. Comment je réagis? Quelle est la motivation à l'intérieur de moi-même? Et surtout face au succès d'autrui. Parce que quelquefois, il peut y avoir un mauvais état d'esprit de concurrence, même entre les chrétiens. Ben, moi, je fais mieux que lui. Si j'étais à sa place, là, pour prêcher aux autres, ben, il verrait que j'ai quand même quelque chose d'extraordinaire plus que lui. ça c'est dit. Hein. Soit on se réjouit, c'est une question de réaction, hein. Soit on se réjouit, ou peut-être même sans rien dire, on va être vraiment contrarié, vexé, et c'est là où on va commencer à rentrer dans un état d'esprit qui va générer de l'aigreur et de l'amertume. C'est pas bon, ça. Ouais. Et tout ça parce qu'ils ne sont pas vus. Parce qu'ils aimeraient être vus, mais ils ne sont pas vus, tout simplement. Il y a l'histoire de David. Vous savez, David, c'était un grand homme, et dans sa relation avec le roi Saül, il n'était pas encore roi à ce moment-là, David, mais il y avait Saül qui était sur le trône. Et ce roi Saül a été humilié du succès de David, parce que Dieu avait béni David. Et ça, c'est quelque chose qui peut être véritablement un petit pincement de cœur. Ah ouais, lui, il est béni. Mais moi, je sers le Seigneur. Mais moi, je fais ceci. Dieu devrait être content. Et pourquoi il le bénit, lui, et pas moi? Quelquefois, avec un petit sourire en coin, ce qui m'arrive jamais, parce que je suis toujours très sérieux, moi, je dis, mais peut-être que le Seigneur t'a oublié dans la distribution. Alors, redemande. Et oui, il y a du retard dans les postes, hein, quelquefois. Alors, on voit... Et là, à partir de ce moment-là, parce qu'ils étaient tous les deux, c'était des notoriétés en Israël. L'un n'était pas encore roi, l'autre, il l'était. Et je crois que tout cela a créé une ambiance terrible qui a donné trois générations dans la dynastie, trois générations ou deux générations plus tard, le schisme. Vous voyez, les choses qui sont gardées dans le cœur, l'aigreur. Moi, j'ai dû dire à quelqu'un dernièrement, oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans la manière dont cette personne parlait et la personne réagissait, je lui dis, écoute, hein, tu vas pas trop, ne sois pas étonné, hein, mais ton aigreur et ton amertume va t'emporter. C'est pour vous dire que c'était sérieux. Alors, j'espère que les choses vont se passer, qu'elles vont bien se passer, mais j'en suis pas tout à fait sûr parce qu'on sent encore beaucoup d'amertume. Et tout ça parce qu'on lui a dit la vérité. Alors, quand on dit des histoires, bon, on comprend que les gens peuvent être contrariés et vexés. Mais quand on dit la vérité, parce que c'est la vérité que... Ah oui, il n'y en a pas 36, c'est celle que... Et qu'on le dit avec courtoisie et respect, parce que vous avez remarqué aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour personne, hein. Même les autorités. Hein. Et qu'on vous balance des choses, on dit non, calme-toi. Parce que t'as ton aigreur et ton amertume, bientôt, tu ne vas plus être chrétien du tout. Hein. Ah oui. C'est grave, hein, parce que vous savez, il y en a un qui s'en empare, c'est le diable. Il s'en empare de tout ça. Hein. Alors Saül regarde avec un mauvais œil, hein, ça c'est de l'islam, hein, le mauvais œil. Hein. Mais donc, il se méfie de ce qui va enclencher sa jalousie, son sentiment de rivalité et de concurrence. Et vous savez combien de temps ça va durer? 40 ans. Fallait le supporter, hein, le roi Saül. Parce que tous les coups pendables, tous les coups dans le dos, les couteaux dans le dos, enfin bon, tout ce que vous voudrez, ce qu'on peut porter dans le dos, hein, quand c'est pas de face, eh bien, c'est quelque chose de terrible. Empoisonné. Alors non seulement c'était un homme, il était le roi, il avait l'autorité, mais il a empoisonné tout son peuple. Il n'y en a qu'un. Et puis avec sa petite équipe, le reste, c'était David. Hein. Il est resté stoïque. Mais je peux vous dire que David, il a eu une drôle de vie aussi. Hein. C'était terrible. Alors, ça, c'est des choses à retenir des mauvais ouvriers. Il y a le danger de vouloir être chef. Je suis chef. Bien chef. Hein, vous connaissez, hein, il y a des films là-dessus, c'est pas triste. Et c'est savoir supporter les différences quand on est en position d'autorité. Eh oui, on n'est pas tous pareils. Au milieu de nous, il y en a qui ont les yeux bleus, d'autres les yeux marrons, les yeux... qu'est-ce qu'il y a encore vert, non? Oui, il y a les yeux verts, hein. Les yeux rouges, oui, quand on pleure. Hein. Voilà. Mais il y a des différences matérielles, des différences physiques, c'est vrai. Mais les différences même spirituelles, elles existent entre nous. Et c'est un enrichissement. Nous sommes une mosaïque. Et chaque petite pierre de la mosaïque va faire un bel ensemble harmonieux. C'est ça, justement, ce qui est important. Et moi, je ne suis pas en concurrence. Enfin, je suis plus en concurrence. Hein, parce que maintenant, hein, je suis en vacances perpétuelles. Mais toujours est-il que moi, je me réjouis d'entendre les frères, et, hein, que ce soit Patrick, que ce soit Michel, Jean, et puis les uns et les autres qui sont là. Moi, ça ne me fait rien. Au contraire. parce qu'il y a des choses qui vont peut-être dire que moi je ne saurais pas les dire, ou faire que je ne saurais pas faire. Alors, quand on veut avoir une place, en toute modestie, eh bien il faut supporter les différences et la mise en évidence de nos manques à nous. Eh oui, parce qu'on peut avoir des manques et le reconnaître. Et les défauts que l'on remarque chez nous et qu'on vient nous dire quelquefois, bah oui, mais Alain, tu devrais, attention, ceci et cela, ça m'est arrivé. Bon, bah, faut en tenir compte, autant qu'on puisse véritablement et que ça soit juste, parce que bon, hein, voilà, c'est comme ça. Et c'est là où on teste les bonnes réactions et les mauvaises réactions. Mais quand vous avez quelqu'un qui est en autorité et qui a toujours des mauvaises réactions, eh bien ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Surtout que quand ça part de situation, c'est pour l'aider. C'est un test de vérité, un test comportemental. Parce que je voudrais ajouter ceci, c'est que la médiocrité, elle n'est pas pour l'Église. Nous avons un Dieu parfait. Nous avons un Père et un Maître qui est parfait. Et il ne veut pas la médiocrité dans son peuple. Il ne veut pas la médiocrité dans ceux qui le servent. Ce n'est pas pour ça que Dieu veut nous faire atteindre l'idéal. Ça n'existe pas, ça. Hein ? Ça n'existe pas. Mais il y a 4 faiblesses caractérisées qui montrent la médiocrité. Alors, c'est chez les hommes, chez les chrétiens, mais c'est peut-être aussi quelquefois, c'est toute une église. D'abord, la médiocrité, elle ne rassure pas. Les chrétiens ne sont pas en confiance. Voilà. Parce qu'ils sentent que, bon, c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'on espérait, on voudrait un peu différent, mais c'est pas ça. Et ça crée un malaise dans la communauté. Un malaise, sinon le questionnement. C'est-à-dire, on remet en cause les choses. On peut se remettre en cause soi-même, mais bon, quand le Seigneur et le Saint-Esprit nous disent non, c'est pas toi. Mais là, il y a une situation qui est comme ça. Ben, faut la vivre, la situation. Et ça nous amène à... Mais quelquefois, des situations de ce genre d'état, ça nous permet aussi de remettre l'Église en cause. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le ronronnement et la routine. Et c'est bien souvent dans les épreuves et dans les questionnements, dans les perplexités auxquelles nous sommes confrontés, qu'il faut réagir. Vous savez, un faux chef, un couvre-chef, si vous aimez bien, un faux chef se sert toujours le premier. C'est son ego qui apparaît. Ah oui, moi, moi, moi. Eh bien non, vous allez voir que ce n'est pas ça. Parce qu'il veut être aimé pour ce qu'il est lui-même. Et je crois qu'il ne faut pas chercher à être mal aimé. Mais si tout est ramené, il faut chercher auprès des autres qu'ils aiment davantage Jésus, mais pas nous. Et c'est quelquefois Dieu nous envoie des bons messages, hein, en disant, bah, écoute, on baisse un peu le ton parce que c'est plus moi qui suis en priorité. Hein. C'est toi qui te mets en avant, tout simplement. C'est d'orgueil, naturellement. Alors, c'est tous les avantages que l'on peut avoir également. L'ego prioritaire, les avantages. Et ça isole les gens. Ils s'isolent les uns les autres. Et ça produit des étonnements, ça produit toutes sortes de choses. On n'est pas en sécurité. Ce véritable personnage dont nous parlons, les mauvais ouvriers, eh bien, il est en quête de reconnaissance des autres. Il peut être pas son travail, mais quelque part, il voudrait en avoir le bénéfice. Souvent, il a un tempérament dominant, directif, parfois désobligeant, parce qu'on a le sentiment qu'on le dérange. Comprenez ? Quand il ne perçoit pas l'adhésion de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et ça, c'est très ennuyeux. Il est dans le souci de paraître et non pas d'être. Eh oui, c'est bien ce que Jésus reprochait d'ailleurs. Hein. Il aime à être loué. Rabbi, Rabbi, vous connaissez un peu le... Il aime bien à tenir le haut de l'affiche. Parce que vaniteux et orgueilleux, c'est à peu près la même chose. Hein. Quoi qu'il en soit. Souvent, il est sur la défensive. Il est inquiet d'être doublé dans sa position et dans sa mission. Mais personne ne va le doubler. Parce que le vœu d'Etaria, ça existe. Hein. J'ai fait un message il y a 3-4 ans. C'était la starisation des prédicateurs. Vous le trouvez encore sur l'Internet. Hein, il y en a... Oui, parce que quelquefois, on a fait du prédicateur une star. Starisation du prédicateur. Alors, à travers des exemples, naturellement, que l'on en a la parole, que j'ai détaillé, ça fait l'objet justement d'un culte complet, d'études, en tous les cas. Et dans cette situation, eh bien, il y a comme un climat qui n'est pas forcément très très bon. Alors on peut affirmer qu'il existe des chrétiens piles. Enfin, rien à voir avec les batteries. Mais qui sont véritablement dans la modestie et qui sont à l'ombre dans l'humilité. Et puis il existe des chrétiens face qui ignorent qu'il serait avantageux pour eux s'ils avaient un petit peu de réflexion d'eux-mêmes et pour tous qu'ils soient et qu'ils comprennent que l'ombre n'est pas une tare. C'est pas parce qu'on a une petite fonction, c'est pas parce qu'on n'est pas vu, c'est pas parce que voilà, on a peut-être moins de charisme que d'autres. Ce n'est pas une tare, l'ombre. Non. Mais il y a quelque chose à en tirer. Parce que c'est la véritable condition que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Naître de nouveau avec les fruits qui l'accompagnent. Et en premier lieu, l'humilité. Tout simplement, mourir à soi-même. Parce que pour devenir grand et authentiquement spirituel, Jésus nous laisse une parole qui tranche à merveille quand il dit celui qui voudra s'élever sera abaissé et celui qui s'abaissera sera tout simplement élevé. Alors attention, pile, ce n'est pas à la lumière des hommes, mais pile, c'est à la lumière du royaume de Dieu. Et on a compris pourquoi. Face, eh bien, c'est Dieu qui dévoile nos ombres. Nous voulons nous mettre en avant. À un moment donné, nous serons humiliés devant tout le monde. Ouais, ça paraît. Écoutez, ça fait 45 ans que je suis dans le ministère. On en a vu, hein. On en a vu véritablement des... Voilà, ils n'étaient pas tout à fait à leur place, tout simplement. Et à un moment donné, ben non, ça ne va pas. Il faut être patient. Mais c'est Dieu, après, qui montre les ombres. Ce qu'on a voulu cacher, eh ben, c'est montré à la lumière de tout le monde. Ce n'est pas un règlement de compte, hein, pas du tout. Mais ce n'est que la réalité d'un fruit que nous avons cultivé, un fruit qui n'est pas forcément très bon, tout simplement. Alors les projecteurs brûlent les ailes, parce qu'on a parlé d'ombre et de projecteurs. Les projecteurs, sachons-le, ils brûlent les ailes. Combien de grands artistes ont eu une carrière très courte, ils sont montés en flèche, et à un moment donné, on n'a plus entendu parler d'eux. Voilà. Et nous voulons être des gens qui durent, quoi qu'il en soit. Surtout qu'on est promis pour la vie éternelle. Ah oui, parce que attendez, ça va être long, hein. Au début, ça va, mais à la fin de l'éternité, ça va être encore plus long. Hein. Alors, je termine. Les projecteurs brûlent les ailes, mais l'humble marche d'un serviteur avec Dieu, eh bien, nous garantit la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est à comprendre, tout simplement. Un dernier verset. Quiconque se rendra humble comme un petit enfant, sera grand dans le royaume de Dieu. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Clair. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir les autres. Alors, que le plus grand soit le plus petit parmi vous, et celui qui gouverne, parce qu'il est question finalement là de différents états de fonctions et missions, celui qui gouverne comme celui qui sert. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et que nous puissions tenir compte de toutes ces observations que nous laisse sa parole, et que nous puissions vraiment le mettre à profit. Soyons humbles et modestes, et c'est à ce moment-là que le Seigneur pourra se servir de nous et bénir son peuple. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier et te bénir parce que tu es vivant, tu es fidèle. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous savons, Seigneur, que l'œuvre de Dieu peut se décliner de différentes manières en fonction de ce que les hommes, tout simplement, l'envisagent. Nous voulons envisager ton service à la lumière de ta parole, parce qu'il y a des principes, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des attitudes, parce qu'il y a des aspirations qui soient justes et pures. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que l'Église passe par diverses situations, parfois des temps quantitativement où il y a du monde. Et quelquefois, eh bien, Seigneur, il y a comme une sorte de désertion, pour des raisons, Seigneur, qui sont diverses. Et puis, il y a ceux qui se cachent dans l'ombre, pour ne pas être vus, mais qui continuent à être, eh bien, les représentants de ces 7000 hommes du temps d'Élie, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont restés fidèles au Dieu d'Israël, à leur Dieu. Et puis il y a ceux qui, en effet, eh bien, se servent de l'œuvre de Dieu, du nom de l'œuvre de Dieu, pour véritablement se mettre avant Jésus. Et qui là, eh bien, oublient que Jésus doit croître par notre ministère, par notre service, par notre engagement, alors que, en effet, ils prennent la place de Jésus devant Jésus pour que Jésus diminue et qu'ils croissent. C'est une aberration, Seigneur. Donne-nous de bien comprendre toutes ces nuances et ainsi, Seigneur, de pouvoir vivre ce que tu nous as préparé parce que nous croyons que même si les églises passent par des moments difficiles, toi, tu as les réponses et les solutions pour ta gloire. Merci, Jésus. Amen.